vous avez publié une lettre ouverte dans la presse, La Science en temps de pandémie. En quoi la science prend plus de relief depuis le début de cette crise ?
Il y a eu énormément de la science, les chercheurs, la recherche ont été très présents dans les médias, ici au Québec, mais un peu partout dans le monde, énormément de présence aussi dans les conférences de presse de tous les jours du premier ministre du Québec, mais aussi au niveau fédéral. Donc, les chercheurs ont été très interpellés dans cette pandémie et plusieurs ont répondu présents. On discutait avec le public, on répondu aux questions du public. Et ça, je suis très heureux de voir ça aussi, de voir le rapprochement entre les chercheurs, entre la science, le milieu gouvernemental, les élus et aussi le public en général.
Alors, on l'a vu, la science et la recherche vraiment présentes pendant la pandémie, mais aussi dans la relance. En quoi, en fait, on va avoir de plus en plus besoin de cette recherche et de la science pour relever les grands défis qui arrivent?
Je pense que vraiment la solution à cette pandémie-là repose sur la recherche, repose sur la science. Bien sûr, tout le monde, on parle tous d'un vaccin, mais
un vaccin qui n'arrivera pas avant un an et demi. Hein.
Oui, même si on est très optimiste, là, je pense que on peut pas s'attendre avant un an au minimum.
Donc, on est bien placé. Je vous coupe. On est bien placé au Québec, oui, avec Medicago qui a fait un candidat vaccin en 20 jours.
Oui, il y a des candidats vaccins. Il y a aussi Carré Gobenger qui est très, très impliqué. Il y en a d'autres dans le réseau québécois. Mais en général, tout ça, c'est des données qui sont préliminaires, des données in vitro. Donc, par la suite, ça prend des données chez l'animal, dans des modèles animaux, ça prend des validations chez l'homme. Donc, on ne peut pas couper vraiment les coins ronds, là. Et malheureusement, ça va prendre un an et demi avant d'avoir un vaccin, même s'il y a plusieurs études en cours à travers le monde. En général, c'est toujours des phases 1 qu'on appelle dans le langage clinique, de recherche clinique. Il faut passer par la suite aux phases 2 ou phase 3 et finalement pour arriver à une commercialisation de vaccin. Donc, on en a quand même pour plusieurs mois avant de pouvoir avoir un vaccin. Mais entre-temps, il faut voir est-ce que d'autres molécules qui sont déjà des médicaments déjà sur le marché qui pourraient être efficaces. Donc là aussi, il y a énormément d'études partout à travers le monde.
Ce matin, nous étions avec Jean-Claude Tardif, oui, je vous coupe encore.
Nous étions avec Jean-Claude Tardif,
qui nous parlait justement de la colchicine. On est plutôt bien placé là-dessus au Québec. Il y a aussi des études sur l'hydroxychloroquine, un peu controversée. Oui. Est-ce qu'on est bien placé en termes de course au traitement au Québec?
Oui, je pense qu'avec avec Jean-Claude, il y a aussi d'autres études éventuellement là, qui devraient démarrer sur une molécule japonaise qui va être utilisée pour le traitement de pancréatite, qui pourrait aussi peut-être avoir des effets. Donc, on essaie différentes voies. Et en plus, il y a des chercheurs dans leur laboratoire qui, eux, essaient toutes sortes de molécules sur des protéines associées aux mécanismes d'action du virus pour éventuellement être capable d'identifier des nouvelles façons là, peut-être de moduler, de diminuer l'effet du virus. Bien sûr, ce n'est pas un vaccin, là, ça ne guérira pas, mais ça pourrait diminuer les effets du virus.
Alors, parmi les avancées, on a vu que la science était mobilisée. On a notamment beaucoup parlé de science ouverte. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Ben ça aussi, c'est déjà un mouvement qui est en marche depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années, mais avec quand même de la résistance de la part des chercheurs, de la part des organisations de recherche pour aller vers ce mouvement-là. Et là, vraiment, la pandémie a accéléré le mouvement. Il y a un peu partout à travers le monde, les chercheurs collaborent, à la fois du public et du privé, et toutes les données sont mises sur des plateformes, les informations sont publiques, les publications de recherche sortent en pré-publication. Donc, on a un mouvement de science ouverte, d'accès aux données, qui est assez exceptionnel, et je pense que c'est à peu près irréversible. Par la suite, ça va continuer, on va continuer à aller dans ce sens-là. Et les grandes stratégies, surtout européennes, là, comme le plan S, je pense qu'on fait beaucoup d'avancées dans ce secteur-là présentement pour s'assurer que les données de recherche, les résultats de recherche sont disponibles à tous le plus rapidement possible et à des coûts limités.
Je viens de voir en fait que le docteur Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, recommandait de porter le masque en couvre-visage dans les lieux où il est difficile de respecter la distance de 2 mètres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut, en fait, dans cette période de déconfinement progressif, monsieur Rémy Quirion, il faut, en fait, tous porter un masque?
Je pense que oui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions au cours des dernières semaines. Oui, non, on ne sait pas trop. Et bien sûr, on apprend tous au fur et à mesure qu'on connaît un peu mieux le virus. Et je pense que oui, lorsqu'on va recommencer à retourner au travail, si on est dans le métro, par exemple, dans les autobus, probablement que lorsqu'il est difficile là, vraiment de garder la distance de 2 mètres, c'est beaucoup mieux d'avoir un masque pour se protéger, mais surtout protéger les autres contre nous dans un sens.
Quel est le masque que vous nous recommandez en fait? Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace qu'un autre?
C'est-à-dire certain que les masques chirurgicaux, là, c'est pas ce à quoi on devrait avoir accès. Même si vous en faites vous-même chez vous, je pense que déjà là, c'est déjà une bonne barrière. Par la suite, bien sûr, il faut le nettoyer à tous les jours. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de directives de santé publique pour comment les porter, pour être sûr que ça, c'est le plus efficace possible comme barrière.
Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième vague? On parle de deuxième vague qui pourrait être encore plus importante.
Probablement, si on pense aux épidémies dans le passé, si on pense seulement à la grippe, à l'influenza, très souvent, il y a des deuxièmes vagues. Donc, on s'attend peut-être à une deuxième vague. Est-ce que ça va être plus fort que la première? Difficile à dire encore une fois. Le virus semble relativement atypique. Mais c'est certain j'espère qu'on va avoir appris de la première vague pour être beaucoup mieux préparé pour la deuxième, comme par exemple, juste avoir suffisamment de masques, ça serait déjà bien. Et aussi la distanciation sociale.
Est-ce qu'il faut penser aux tests aussi, tester beaucoup plus de monde?
Beaucoup plus. C'est certain que moi, depuis le début, si on avait eu la possibilité, ça aurait été de tester presque tout le monde. Là. Un peu comme c'est fait en Islande, c'est sûr que la population là-bas est petite, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, si on les teste pas, on ne sait pas, puis ils ne le savent même pas eux-mêmes, ils peuvent contaminer le plus. Donc, si on peut avoir le plus grand nombre de tests possible, je pense que ça serait de beaucoup préférable pour prévenir une deuxième pandémie.
Est-ce qu'à l'avenir, Rémi Quirion, il va falloir encore plus d'investissements sur la recherche?
Je pense que oui, en recherche fondamentale, comme on disait en début d'entrevue, vraiment les questions, les réponses aux questions qu'on a présentement vont venir de la recherche. Donc, il faut investir, mieux connaître les coronavirus, avoir des experts en virologie, des experts en développement de vaccins, des experts en commercialisation de vaccins, des experts du côté social, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'impact là, du côté santé mentale, du côté dépendance. Donc, je pense qu'il faut continuer à investir et investir encore davantage, parce qu'il va y en avoir d'autres. C'est un peu comme un tremblement de terre à San Francisco. Il va y en avoir un moment donné, on ne sait pas quand, mais des pandémies, il va y en avoir d'autres et peut-être encore plus agressifs. Les virus vont peut-être être encore plus agressifs.
Oui, on parle beaucoup de virus cachés sous le permafrost de l'Arctique.
Oui.
Les virus
oui.
millénaires qui pourraient...
Oui, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment plus dangereux que les autres. Je pense que même les virus qui viennent, ce qu'on a vu avec ce virus-là, déjà là, c'est relativement compliqué et probablement qu'il peut y en avoir d'autres qui peuvent venir là, de ces endroits-là un peu partout à travers le monde qui vont être plus agressifs encore que le coronavirus.